Vous êtes conscient que nous sommes sous le regard du Seigneur. Si vous êtes d'accord avec les prières que vous avez faites, les louanges, l'adoration, vous voulez que Dieu vous parle, oui ou non? Est-ce que je veux, est-ce que tu veux que Dieu te parle? Si vous deviez un résumé, si quelqu'un dans la rue vous posait la question tout à l'heure à la sortie du culte, c'est quoi le verset le plus important de la Bible pour toi? Qu'est-ce que vous répondriez? Allez, vous allez m'aider. Qu'est-ce que vous diriez? Pour vous, vous allez me dire, oui, mais ça change, un mois, c'est tel verset, le mois d'après, il y a un autre verset qui m'a interpellé, oui ou non? C'est vrai. Mais ce matin, quel est pour vous le verset le plus important? Jean 3,16, c'est le verset le plus connu, je pense, de l'Église en général. Comment? Oui, c'est le Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est le verset qui résume très très bien tous les évangiles. Le verset, moi, qui s'est imposé à mon cœur hier matin lorsque j'ai préparé ce culte, c'est un verset qui résume ce que l'homme doit faire. Le Jean 3,16 résume tout ce que Dieu a fait. Mais il y a un verset qui résume ce que l'homme doit faire. Et je voudrais, avec beaucoup de sérieux, que vous l'écoutiez, ce verset. Il est dans le prophète Amos et il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » S'il y a quelque chose qui devrait se produire dans toutes les églises du monde, toutes les églises où la croix est prêchée, c'est que cette vérité soit continuellement prêchée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans le cœur de chaque pasteur, il devrait y avoir ce feu pour que tous les gens qui entendent la prédication se préparent à rencontrer Dieu. Parce qu'on peut entendre, ne pas écouter. Vous êtes dans Amos? Oui. Regardez le texte, on va y aller dans Amos. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28. Vous savez, il y a des textes qui montrent la bonté de Dieu. Par exemple, il est dit que Dieu a pitié du misérable. Quand il prie, Dieu écoute la prière du misérable. Est-ce que c'est un beau verset, ça? Est-ce que c'est un beau verset? Ben ouais, Dieu écoute la prière du misérable. C'est magnifique. Mais regardez sur la prière, il n'y a pas que des prières comme ça. C'est ça qui a fait le déséquilibre. Il y a des gens qui ont dit, ben, Dieu écoute la prière, je suis misérable, je reste misérable, et voilà. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Proverbe 28, verset 9. Ce sont des versets que je vous encourage à noter et à apprendre par cœur, parce que le Saint-Esprit vous les rappellera. Proverbe chapitre 28, verset 9, le verset que je viens de vous citer, que Dieu écoute la prière du misérable, si je ne me trompe pas, c'est dans le psaume 102. Mais il faut aussi écouter ce genre de verset. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, virgule, sa prière même, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Sa prière même est une abomination. On voit que Dieu aime la prière. Dieu a institué la prière. Les gens doivent prier. Prier, c'est adorer. Prier, c'est supplier. Prier, c'est louer, etc., etc. Quand quelqu'un rentre dans une église qui prie pour la première fois, voilà, c'est quand quelqu'un se convertit, il doit prier. Un chrétien, c'est quelqu'un qui intercède. Un chrétien qui ne prie pas, c'est pas parce que vous priez pas haute voix que je dis ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Si vous ne priez pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais la prière, elle ne doit pas être faite bêtement, mécaniquement. Le Seigneur Jésus dit que celui qui prie comme les païens, qui prie comme les hypocrites, c'est ridicule. Quand on prie, il faut que ça corresponde vraiment à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut écouter ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu a à te dire? Il n'y a que Dieu qui sait où tu en es exactement. Est-ce que nous, on sait où on en est? Est-ce que vous savez où vous en êtes spirituellement? Est-ce qu'on sait où on en est? Est-ce que vous savez exactement où vous en êtes avec Dieu? Non, mais ce n'est pas une question piège, c'est une question sérieuse. Est-ce qu'on peut ne pas savoir? Les derniers chrétiens à qui Dieu parle, c'est qui? Dans la Bible. La dernière église à laquelle Dieu s'adresse, c'est laquelle? Comment, Céline? Laodicée. C'est l'église de Laodicée, dans cette église où ils ont réussi à mettre Jésus dehors. Jésus leur dit, mais tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et il donne des conseils. Bien sûr, ce n'est pas parce que Dieu a des reproches sévères à nous faire, car c'est un reproche sévère, que de s'entendre dire, tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu crois que tu es riche parce que tu fais des trucs, et tu ne sais pas que tu es pauvre parce que tu n'as pas de communion. Et je te conseille d'acheter, etc., de l'or approuvé par le feu, des matériaux spirituels qui ramènent la communion. Donc on peut ne pas savoir où on en est. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est pas possible. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est prêt? Tiens, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui est prêt? À quoi reconnaît-on un chrétien qui n'est pas prêt? Parce que c'est quand même la condition, la chose la plus importante à savoir. Est-ce que je suis prêt si Jésus revenait dans les jours qui viennent? Parce que vous croyez que Jésus va revenir? Vous connaissez l'histoire du « on crie au loup » Vous connaissez la petite histoire d'un crie au loup? Vous savez, on crie au loup, c'est pas vrai. Et les enfants, ah, ils ont peur, ils vont se cacher. Il y a un loup, il y a un loup. Et tout le monde s'en va. Et à la troisième fois ou quatrième fois, il y a le loup. Personne s'en va. Pourquoi? Parce qu'on a tellement dit qu'on n'y croit plus. C'est un petit peu ce qui se passe avec les prophéties sur le retour de Jésus. On a tellement dit que Jésus allait revenir que beaucoup de chrétiens commencent à se poser des véritables questions. Mais le Seigneur va bientôt revenir. Il va bientôt revenir. Et la question qui s'adresse à chacun d'entre nous, la question la plus solennelle, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Jésus va revenir, c'est sérieux. Le Seigneur nous a tout annoncé à l'avance. C'était, il l'a dit ça, Jésus? Voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Est-ce que Jésus l'a dit? Oui, il l'a dit. C'est dans l'évangile de Marc, à la fin. Voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Et nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Il y a de l'amour, en veux-tu, en voilà, dans le cœur de Dieu, mais il y a de la sainteté et de la justice. Dieu est aussi un feu dévorant. Et Dieu rappelle sans cesse à tous les hommes qu'ils doivent se préparer à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, de ton Dieu. Chacun d'entre nous, qu'on soit d'accord ou pas, peut-être que vous n'êtes pas encore converti, mais je peux vous dire que Dieu, il n'est peut-être pas votre père encore, mais il est votre Dieu. Et nous passerons tous devant lui. C'est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu. Pensez à n'importe qui, je ne sais pas à qui vous pourriez penser maintenant, un parent, quelqu'un qui se moque de Dieu quand vous parlez de lui, si Dieu existait, les gens qui se marrent quand on parle de Dieu. Ces gens-là, tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. La seule différence, c'est qu'il y en a qui seront du bon côté, et d'autres qui seront du mauvais côté. D'ailleurs, dans le prophète Amos, puisque vous y êtes, je pense, alors Osée, Joël, Amos, chapitre 4, on voit à partir du verset 4 une parole que seul Dieu pouvait prononcer. Il y a des choses que nous, on n'oserait pas dire. Il y a une parole, moi je me dis, c'est pas possible que Dieu parle comme ça. Amos chapitre 4, verset 4. Vous l'avez déjà lu ce verset. Allez à Bethel. Et c'est Dieu qui parle. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vous m'aidez pas beaucoup. Hein? Et péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui parle. Bethel, c'est un lieu de culte. Allez à Bethel et péché. Et c'est pas fini. Allez à Gilgal. Qu'est-ce qu'il ajoute? C'est Dieu qui parle. Il ne parle pas pour rien. Ça indique que beaucoup de gens célèbrent le célèbre, mais qu'en vérité, ils ne savent même pas où ils en sont. C'est ça ce qui se passe. C'est que du temps d'Amos, comme du temps d'ailleurs de beaucoup de livres dans la Bible, ils n'avaient pas abandonné la religion. Ils n'avaient pas abandonné les lieux de culte. Ils avaient abandonné Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de dire dans ce texte. On peut aller à l'église et ne pas être prêt. On peut aller dans des lieux de culte et vivre dans le péché. Et on voit que Dieu va tout faire. Il fait tout, le Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, vous avez vu qu'il se passe des choses compliquées. Et tout ce qu'on ne sait pas. Parce que les journalistes nous disent que les gouvernements, enfin les journalistes, les gouvernements ne nous disent que ce qu'ils veulent bien nous dire. Et Dieu fait tout, on le voit, regardez avec moi. Alors, à partir du verset 6, on voit que Dieu, il va faire plein de choses. Des choses sévères, des choses qui se passent aujourd'hui. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. C'est terrible, ça. Le manque de pain dans toutes vos demeures. C'est Dieu qui l'a fait. Et qu'est-ce que Dieu dit? Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. On voit que c'est un message à vous. Et tout ce qui se passe, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine en Chine? Vous avez vu, c'est terrible. Franchement, c'est terrible ce qui s'est passé. Et dans plein d'endroits, il se passe des drames, ponctuellement. Ce n'est rien. Alors écoutez, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je le dis parce que c'est la vérité. Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver lorsque la trompette aura sonné et que l'Église sera enlevée, que l'Antéchrist va se manifester et qu'il va imposer un gouvernement mondial sur la terre. Ce n'est rien. Bien sûr, vous allez me dire, si tu étais dans cette ville là-bas, tu dirais peut-être pas la même chose. Je dis ça, je dis que ce n'est rien parce que la Bible dit que ça arrivera sur la surface de toute la terre. À plusieurs reprises, quand la Bible parle de la tribulation avec un T majuscule, il est dit que ces choses arriveront sur la surface de toute la terre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment on traite Dieu. Que vous écoutez bien, que vous n'écoutiez pas le ministre de la Santé en Chine qui dit que c'est pas grave, il n'y a pas de vapeur, vous pouvez respirer normalement et trois heures après, vous apprenez qu'il y a du cyanure dans l'air. C'est sûr que c'est normal qu'on n'ait plus confiance dans n'importe quel homme public. C'est pas possible, puisqu'il court après l'argent et le pouvoir. Mais j'espère que vous faites la différence entre les représentants de la télé et les représentants dans la Bible. Et quand Dieu dit, mais voilà, je vous ai envoyé la famine, c'est terrible la famine, oui ou non? Dans une ville, dans toutes les villes, vous n'êtes pas revenu. Verset 7, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, ah là ça change un peu, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des endroits que Dieu bénit. Il y a des gens que Dieu bénit. Et il y a des endroits où Dieu ne bénira pas. Parce qu'on se moque de lui. Un autre champ a reçu la pluie, un autre n'a pas reçu, s'est desséché. 2-3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous voyez, on voit comment le cœur de l'homme est compliqué. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai eu un moment de silence parce que je pensais à Pharaon. Quand vous pensez à Pharaon, quand Dieu lui a parlé au travers de Joseph, qui n'était qu'un simple prisonnier, n'oubliez pas, c'était rien du tout pour lui, pour Joseph. Quand il lui a parlé, quand vous voyez qu'un païen, a écouté la parole de Dieu, vous allez me dire, ouais, mais c'était conduit par Dieu. Oui, mais vous allez me dire, moi je ne suis pas Pharaon. Un païen a écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, même beaucoup de chrétiens, n'écoutent plus Dieu. Et quand Dieu dit, mais voilà, j'ai fait ceci, 5 fois vous le lirez, 5 fois Dieu dit, mais on peut le lire, vous voyez, vous n'êtes pas revenu à moi, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, je vous ai envoyé la peste, comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, c'est terrible ça, malgré cela, à la fin du verset, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Vous avez vu que Dieu parle au pluriel. Je vous ai, je vous ai, je vous ai, je vous ai. Et puis tout d'un coup, au verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi. C'est pas au pluriel, c'est au singulier. Pourquoi? Parce que le salut, c'est quelque chose de personnel. Je peux dire, bien sûr que je peux dire sans ça, ça me tromperait, préparez-vous. D'ailleurs, si Amos avait été correct dans la grammaire, il aurait dit « préparez-vous ». Il dit non, prépare-toi. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous comprenions bien quelque chose, que le salut, c'est quelque chose de personnel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette semaine, j'écoutais les infos, il y avait un prêtre qui expliquait qu'il fallait que les choses évoluent. Excusez-moi si je souris, ça m'a fait de la peine. Il faut que les choses évoluent dans l'Église et il faut vraiment qu'on fasse du social. Et tout était articulé sur le social. Et j'aurais aimé être là pour lui expliquer. qu'il ne faut pas faire du social. Le social, il ne peut pas ne pas y en avoir. Il est la conséquence du spirituel. Mais dans une église, ce n'est pas le social qui doit nous préoccuper. Dans une église, c'est le spirituel, ce qui est lié à l'esprit. Et ce, je ne sais pas moi la semaine que vous avez passée. Vous pouvez avoir passé une mauvaise semaine. Est-ce que ça peut arriver de passer une mauvaise semaine? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Que vous ayez passé une bonne semaine, c'est pas ça qui est grave. Ou une mauvaise semaine, c'est pas important. Ne vous prenez pas la tête avec des trucs pareils. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir cette assurance dans votre cœur que si vous deviez partir dans l'éternité, vous seriez sauvé. C'est la chose la plus importante. Je le répète, si vous passez un bon mois d'août, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si vous, peut-être vous aurez que des épreuves au mois d'août, j'en sais rien. C'est pas ça le plus important. Ne vous focalisez pas sur les choses que vous voyez. Focalisez-vous sur le Seigneur. D'ailleurs, il dit, c'est dans Ésaïe qui dit, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. On va le lire ce verset, c'est dans Ésaïe 22, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Ésaïe 22. Dans Ésaïe 22, j'espère que c'est ça. Ouais, Ésaïe 22, verset 11. Regardez, c'est un verset qui indique bien combien on a du mal à regarder le Seigneur. Et nous, on regarde les choses. Ésaïe 22, verset 11. C'est pas cette première phrase. C'est la deuxième phrase du verset qui nous intéresse. Ésaïe 22, verset 11. Mais il faut bien lire ces versets. On le lit des fois, mais on ne s'arrête pas. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Vous voyez, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous, on regarde les choses. Ah, ça me contrarie. Ah, ça ne me plaît pas. Cette épreuve, elle m'énerve. Je ne comprends pas. Et ça finit par vous éloigner de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Et Dieu dit du temps d'Ésaïe, mais ne regardez pas les choses. Regardez celui qui dirige toutes choses. Vous ne regardez pas à celui qui a voulu ces choses. Vous savez, ce sont des choses qui sont terribles. Je le redis parce que je pense qu'il faut que les chrétiens l'entendent. Nous ne pouvons pas soupçonner le désarroi qui va se produire lorsque l'Église va être enlevée. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne se préparent pas. Parce qu'ils ne captent pas. Ils s'imaginent que tout va finir bien, que tout va bien se passer. Mes frères et sœurs, oui, ça se passera bien après le millénium. Quand nous serons dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, là, c'est clair que ça finira bien pour les chrétiens. Mais combien d'hommes et de femmes ne sont pas prêts? Combien de chrétiens, peut-être au milieu de nous, ne sont pas prêts? Et je sais que ma responsabilité, c'est de vous aider à faire en sorte que vous vous prépariez à rencontrer Dieu. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Prépare-toi. C'est à vous de vous préparer. On prépare tout. Tout, on prépare. Les gens, il y a des gens. Oh, j'ai déjà préparé mes congés. On s'en va aux Antilles. Ça fait 2 mois que je prépare mes valises. J'ai tout préparé. Je prends la retraite dans 6 mois. J'ai tous mes papiers en ordre. Je veux toucher mon premier salaire le plus tôt possible. Et les gens se préparent. Ils se préparent. Pour les voyages, est-ce que c'est normal de se préparer si vous allez prendre la retraite? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr, on le fait et on le fait consciencieusement. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez partir en vacances, vous allez faire votre liste, coller tac sur la valise. Il ne faut pas que j'oublie ma pince à épiler. Il ne faut pas... Mais c'est pas comme ça qu'on fait? C'est comme ça ou c'est pas comme ça qu'on fait? Il ne faut pas que j'oublie mes cigarettes. Il ne faut pas que j'oublie... On fait la liste. On le fait. Parce que c'est bien. Pour des voyages d'une semaine. Mais là, le voyage, ça va être un peu plus long. Beaucoup long. Et il vaudrait mieux bien le préparer. Est-ce que vous êtes prêt? Vous devez pouvoir répondre à Dieu. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est prêt? Il va à l'église, il est en costume, cravate. Il est prêt. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien qui est prêt. La chrétienne qui est tout le temps bien mise, bien sapée. et qui articule bien ses prières. Est-ce que c'est ça, là, être prêt? Je vais à toutes les réunions, moi. Ouais. C'est ça qui fait que je suis prêt, parce que je vais à toutes les réunions? Ben non. C'est pas un problème géographique, c'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Et vous remarquerez que le Seigneur Jésus n'arrête pas, il n'arrête pas d'enseigner à l'importance d'être prêt. Il y a des gens, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ce verset, celui qui écoute l'oreille, et celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On peut très 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 bien prier, très très bien s'exprimer. Oh, celui-là qui prie bien. Oh, tu l'as entendu ça? Oh, ce frère, quand il prie, mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez bafouiller, vous pouvez ne pas vous exprimer bien. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec la qualité d'expression. La spiritualité, c'est une question de cœur. Et on pourrait prendre les textes. Moi, je sais que j'ai été interpellé quand je me suis converti sur les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans. Vous avez capté ces textes, vous les avez lus. Les 7 fois où Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il n'y a que Jésus dans la Bible qui utilise cette expression, l'apôtre de l'amour, le grand Dieu plein d'amour. Il parle, qui c'est qui parle de la géhenne? Sur les 12 fois, 11 fois c'est Jésus qui parle de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. Mes frères et sœurs, c'est sérieux la spiritualité. C'est vrai que Dieu est plein d'amour, moi je le crois. Que ce message, vous pouvez le tordre comme vous voulez. Amos 4, moi la première fois que j'ai lu Amos 4, j'ai dit, oula, oula, c'est grave. Et puis ça fait 35 ans maintenant, et je dis Amos 4, eh bien, c'est comme tous les textes, c'est un message d'amour, d'un Dieu plein d'amour, qui cherche à tout faire, à tout faire, à tout faire, pour que les hommes viennent ou reviennent à lui. Je vous ai fait ceci, je vous ai fait cela. Vous savez, le tsunami qu'il y a eu en 2004, c'était quand même costaud. Je crois qu'il y a 250 000 personnes qui sont mortes en quelques secondes. Est-ce que c'était grave le tsunami? Est-ce que Dieu peut l'avoir provoqué? Est-ce que Dieu peut l'avoir utilisé? C'est des choses qui nous dépassent. Qu'importe. Une chose est sûre, Dieu a voulu parler au travers de ce tsunami. Hier, il y a 2 volcans graves qui se sont réveillés. Je suis sûr que Dieu veut parler. Un à La Réunion, un autre au Mexique. Des choses graves. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par la prédication de la croix. Il parle par les éléments. Il parle. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que ça m'aide à me préparer, à me rencontrer? Est-ce que je comprends qu'un jour, tous les hommes passeront en jugement? C'est écrit ou c'est pas écrit ça, que tous les hommes passeront en jugement? Dieu appellera tous les hommes en jugement. Et juste avant, il dit, au jour du malheur, réfléchis. Il faut réfléchir. Un culte, c'est vrai qu'on va prendre la Sainte-Seine, mais c'est une occasion de prendre une victoire. Oui, j'ai passé un bon mois. Oui, le docteur m'a dit que j'étais malade. Oui, je sais, c'est peut-être pas... Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je sois prêt à rencontrer le Seigneur. Au jour du malheur, réfléchis. Moi, je trouve que des malheurs, il y en a. Avec un petit M pour le moment. Bientôt, ça sera des malheurs avec un M majuscule. Et combien de fois c'est écrit malheur à l'homme qui n'a pas écouté? Moi, vous savez, cette parole de Dieu dans Amos, moi, ça m'a choqué la première fois. Aller à Bethel et pécher. Si ce n'était pas écrit et que je vous dise, bah, là, l'église est péché. Oui, non, mais pour qui il se prend? Oui ou non? Vous ne le diriez pas un peu? Allez, répondez-moi. Je ne regarde pas qui c'est qui le dit. Est-ce que vous ne le diriez pas? Allez à l'église et pécher. Allez dans telle église et continuez à pécher. Non mais c'est pas possible, c'est pas Dieu qui parle. Mais si, c'est comme un électrochoc, il faut qu'on réagisse. Nous souffrons à l'idée de ce que certains membres de notre famille ne sont pas prêts à le rencontrer. Franchement, le Seigneur reviendrait dans les semaines qui suivent. Est-ce que vous ne seriez pas malheureux si vous saviez que tel membre de l'église, de la famille, n'est pas prêt? Ça ne vous brise pas le cœur? Moi, c'est la chose qui me fait le plus souffrir. De savoir que les proches, des proches, ne sont pas prêts. Que des membres de ma famille ont rétrogradé. Moi, je sais, je le dépose, bien sûr. Mais j'avoue que c'est la chose qui me fait le plus de peine. D'ailleurs, quand Jean voit une grande foule de gens en robe blanche pendant la grande tribulation, Jean, c'était quand même... Bon, Jean, c'est quelqu'un. L'apôtre Jean. il a beaucoup reçu. C'est bien la preuve que les chrétiens ont été enlevés, puisqu'il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? D'où viennent-ils? Et l'ange lui dit, mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ce sont toutes les vierges folles, et ce sont tous les chrétiens qui n'ont pas pris à cœur ces choses, qui se sont contentés d'une vie d'église, parce que pour beaucoup de gens, croire, ça suffit. Ah ben moi, je crois en Dieu, je crois, je vais à la messe de temps en temps, je vais au culte, oui, à Noël, je ne raterai pas la messe de minuit, vous savez, on ne sait jamais au cas où. Mais vous croyez que ça suffit à Dieu, ça? On va lire un autre texte. J'aimerais que nous le lisions parce que ça vient de Dieu. Tous les textes, toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Vous le croyez, ça, toujours? Ou vous faites comme certains qui disent, oui, l'apôtre Paul, c'est un misogyne, lui, il ne faut pas trop croire. Moi, dernièrement, il y a un gars pour qui j'avais prié qui a été guéri du cancer. C'est un gars qui est très influent, qui a beaucoup d'argent, etc. Et il n'a pas trouvé mieux que d'écrire un livre. Et il m'a téléphoné pour me dire ce que j'en pensais. Le pauvre. Vous voyez? Il parle de Dieu, mais il n'est pas converti. Et parce que les gens ne croient pas que toute la parole de Dieu est inspirée. Regardez l'apôtre Jacques, ce qu'il dit. On va lire du verset 14 et on va lire jusqu'au verset 26. Ça a été écrit, vous savez, le titre, moi, dans ma version de Jacques, c'est « La vie chrétienne sous son aspect pratique ». Parce que chaque livre a un titre. Et ça, c'est l'aspect pratique. Jacques, chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Je vous en profite pour vous dire que même Luther, bon, Luther, c'est pas rien, il a pensé pendant longtemps que le livre de Jacques n'était pas inspiré. Parce que ce livre nous pourrait nous amener à croire qu'on est sauvé par les œuvres. Mais ce n'est pas ça que l'apôtre Jacques dit. L'apôtre Jacques est en train de dire que la foi, elle ne peut pas produire des œuvres. Elle ne peut pas ne pas produire d'œuvres. Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors j'en profite pour dire, est-ce qu'on peut aider tout le monde? Est-ce qu'on peut donner à manger à tout le monde? Mais non. Est-ce qu'on peut donner à manger à tous les clochards de Toulouse dans l'avenue à Matabiau? Non. C'est pas ça que ça veut dire. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Regardez la suite. Les démons le croient aussi. C'est sûr qu'ils doivent croire en Dieu, c'est clair. Et pourquoi ils tremblent au fait? Tiens donc. Pourquoi les démons croient et tremblent? Pourquoi ils tremblent? Bien parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Parce que là, ils ont une pseudo-liberté. Mais mes frères et sœurs, la condamnation éternelle repose sur les anges, sur les démons, qui sont des anges qui, eux, ont choisi d'abandonner Dieu. Tout le monde, toutes les créatures créées, procréées comme nous, toutes les créatures choisiront de quel côté ils veulent. Même les anges puissants ont choisi de quel côté ils pouvaient se placer. Dieu ne leur a pas imposé de le suivre. Tout le monde choisit. Mais ils tremblent parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Mais ils croient. Et cette croyance ne sauve pas. Ce n'est pas la croyance qui sauve. C'est la piété. Des fois, on dit que c'est le baptême. Oh, il a pris le baptême, il est sauvé. Non, il y a des gens qui ont pris le baptême, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. C'est le baptême qui sauve ou la repentance? Et bien voilà. Mais c'est important. Quand il est dit qu'ils ont, les chrétiens de la fin des temps, ils renieront ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est la repentance, et la sainteté, bien entendu. On continue? Ils tremblent. La croyance, ce n'est pas la croyance qui sauve. Dieu ne veut pas qu'on croie en lui. Dieu veut qu'on le croie. Vous faites la différence? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile. Ça, c'est révélateur. Quelqu'un qui fait rien pour Dieu. Ça, c'est révélateur. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Et que et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est inutile. La foi sans les œuvres, elle est morte. Quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui a une véritable foi. D'ailleurs, les sept fameux textes, je vous les donnerai tout à l'heure si vous les voulez. Les sept fameux textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, le premier, le contexte, c'est la foi. Matthieu chapitre 8, le premier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents pour les fils du royaume, ce n'est pas pour les impies, ce n'est pas pour les pécheurs, c'est pour les fils du royaume. Mais je ne sais pas si les gens, les chrétiens, ils font attention quand ils lisent. Regardez, Matthieu, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Matthieu 8, verset 12. Mais les fils du royaume, c'est qui les fils du royaume? C'est qui? Alors, mais pas tous, bien sûr. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et de grincements de dents. Le contexte, c'est quoi? C'est un homme qui avait une foi, un étranger, qui avait une foi que les religieux n'avaient pas. Et c'est là, vous le relirez, du verset 5 au verset 13, vous verrez le contexte, c'est la foi. Ils avaient une religion, alors ça, ils n'auraient pas loupé le culte, ça c'est clair. Mais ils n'avaient pas de foi. C'est pour ça que les chrétiens qui n'ont pas cette foi vivante, c'est pour ça que la croyance, ça veut rien. Il y a plein de gens qui croient. Je ne vous demande pas si vous croyez en Dieu. Je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu? Cet homme, il avait une véritable foi. D'ailleurs, il a dit à Jésus, écoute, dis un mot. Dis un mot. Il avait compris le principe. Il n'a pas dit, viens dans ma maison, tu sais, j'ai construit une synagogue. Au fait, je te signale que malgré le fait que je suis un capitaine de l'armée d'Italie, j'ai quand même construit une synagogue, alors ça serait normal que tu viennes guérir mon serviteur. Il n'a même pas demandé à ce que Jésus vienne dans sa maison. Il a fait dire à un de ses serviteurs, dis un mot. Dis un mot. Mais vous le croyez au fait que la foi, c'est que Dieu y croit, il voit tout? Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu peut guérir? Est-ce que vous croyez que Dieu peut sauver? Seigneur, sauve mon fils. Sauve-le. Il est aux Antilles, il est à La Réunion, il est en Tchécoslovaquie, il est, je ne sais pas où il est. Seigneur, sauve-le. Est-ce que Dieu peut le sauver? Eh oui. Il est tout puissant. La foi, c'est ça, c'est ce que Dieu a dit, c'est sérieux. Quand Jésus dit, mais ce que je dis à tous, ce que je le dis à tous. Ça ne peut pas être plus clair. Ce que je le dis à tous. Tous, veillez. Est-ce que c'est écrit ça? Dans Marc 14, je crois. Ce que je le dis à tous. C'est signé Jésus. Veillez. Ce matin, c'est le but. C'est de vous aider, de nous aider à veiller. Parce que une des conditions pour être prêt, c'est de veiller. Oui, est-ce que j'ai une véritable foi? Est-ce que ma foi, elle est toujours vivante? Est-ce que je prie comme les païens? Parce que c'est facile de critiquer les catholiques qui récitent de Notre Père et des Je vous salue Marie. Mais il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que moi, je suis pas en train de réciter des prières aussi? Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Monsieur Lafayette, il a fait mettre ce verset il y a longtemps. C'est M. Lafayette qui fait mettre cette partie du verset. Vous savez où il est ce verset? Dans les Corinthiens. Vous savez ce qu'il y a au-dessus? Juste au-dessus? Il faudrait rajouter la phrase dessus, mais on ne peut pas tout rajouter. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste avant? Soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? C'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'apôtre Paul. Je vous en supplie. C'est Paul, donc Dieu, qui parle à des chrétiens dont certaines ne vont pas très bien. Il parle à l'Église. Et il le dit, je le dis à votre honte, il y en a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Il justifie le péché. Quand on justifie le péché, de toute façon c'est clair. Écoutez-moi bien, on ne va pas prêcher pendant 5 heures. Écoutez-moi bien. Si vous justifiez le péché, vous ne connaissez pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous donnerai la référence tout à l'heure, ça doit être dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Si vous justifiez le péché, vous ne connaissez pas Dieu. Et à ces chrétiens, Paul dit, mais je vous en supplie. Mais c'est Dieu qui parle. Vous imaginez le président de la République, quelqu'un de très bien, quelqu'un de très bien, de très haut placé, qui aille voir un clochard dans la rue et qui dit à ce clochard, mais je t'en supplie, il faut être réconcilié avec moi. Le clochard, il vous dit, mais pourquoi? Et pourquoi le président, pourquoi ce grand chef d'État supplie un clochard d'être réconcilié avec lui? Mais ça veut dire quelque chose. Il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Je vous en supplie. C'est Dieu qui dit ça. Soyez réconciliés avec moi. Mais parce que ça va mal se passer si on n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous trouvez que j'exagère? Ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'évangile de la prospérité, avec tout ce qu'on entend dans les églises, c'est sûr que beaucoup, souvent, je me traite de légaliste. Moi, je ne pense pas être légaliste. Je pense que la pensée de Dieu, c'est d'aider tous les chrétiens qui ne sont pas prêts à être sauvés. Et quand Jésus, même quand Jésus, dans des synagogues, traite les pasteurs d'hypocrites, est-ce qu'il la faisait parce qu'il n'aimait pas les pharisiens, ou est-ce que c'était parce qu'il les aimait? Pourquoi Jésus a-t-il traité des pasteurs d'hypocrites? Pour les mépriser? Franchement. C'était par amour ou c'était par jugement? C'était par amour. C'est pour nous faire réfléchir. Si le Seigneur devait me traiter d'hypocrite, eh bien, moi je le considérerais comme une grâce. Parce que ça me permettrait de réagir. Et lorsque Dieu dit, mais c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, c'est une expression qui fait froid dans le dos. Les fils du royaume, parce qu'il y a des fils du royaume qui n'ont pas la foi. On a parlé de la foi. Un des derniers textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, c'est la parabole des talents. C'est Matthieu 24, 25. Matthieu 25. C'est le dernier texte dans Luc, dans Matthieu. Il y a 6 textes dans Matthieu et un texte dans l'évangile de Luc. Mais les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est clair, vous ne serez pas sauvé par les œuvres. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à Dieu, c'est bien. Mais vous ne serez pas sauvé par les œuvres. Mais quand même, quand quelqu'un il est en communion avec Dieu, il a besoin de faire quelque chose pour Dieu. C'est un plaisir. Il a besoin. Matthieu 25. Alors, il y a Dieu donne des talents à tout le monde. Chacun a reçu des talents, etc. Et puis, il y en a un qui dit, voilà, verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux. » Donc, et la fin. Alors, on va lire le verset 29. C'est un des paradoxes, mais c'est comme ça. « Car on donnera celui qui a, et il sera dans l'abondance. » On va avoir des surprises au ciel. Laissez-moi vous dire qu'on va avoir des surprises dans le ciel. « Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça fait réfléchir. Hein. « Et le serviteur inutile, c'est un serviteur, ça fait, on peut penser à un pasteur même. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Le contexte, c'est la paresse. La paresse, c'est pas parce que je suis paresseux que je vais aller en enfer. Mais non, c'est pas parce que tu, à des moments ça va pas, c'est pas parce qu'on a 5 minutes de fainéantise qu'on va aller en enfer. Ça c'est évident. Mais si je suis continuellement inutile, si continuellement je ne fais rien pour Dieu, c'est la preuve que je n'ai pas de communion avec Dieu. Le problème en vérité, ce n'est pas tellement le fait de faire. C'est parce que je ne fais pas, parce que je n'ai pas de communion avec Dieu. Si j'ai une communion avec Dieu, j'aurai besoin de faire certaines choses. Et quand Jésus parle de ces choses, c'est sérieux. Moi, je suis paniqué lorsque je vois ce qui se passe dans les églises. Ce que j'entends. Non mais, je ne peux pas tout vous raconter. Mais je vous assure que c'est grave. La quantité de chrétiens qui flirtent avec le monde, qui flirtent avec le péché et qui s'imaginent que de toute façon, personne ne nous ravira de la main parce que l'évangile de la... De la sécurité éternelle. Je peux vous dire que c'est rentré dans nos églises, dans nos assemblées. Vous savez ce que c'est la sécurité éternelle? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'on ne peut pas perdre le salut. Et je peux vous dire que les gens qui croient ça, ils ne doivent pas beaucoup lire la Bible. Mais moi, j'aimerais qu'ils aient raison. Croyez-moi, j'aimerais me tromper. Mais quand vous lisez toute la Bible, vous n'arrêtez pas de voir combien Jésus n'arrête pas de nous signaler que justement, on peut le perdre. Que les pasteurs peuvent perdre le salut. Le texte avant, dans Matthieu 20, c'est important, dans Matthieu 24. Là, c'est pas s'adresser aux pasteurs. Ah, ça, c'est sûr. Si Matthieu s'est adressé à tous les serviteurs et les servantes, on est tous des serviteurs et des servantes. Mais quand même, hein, là, au verset de Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Voilà, s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que l'on soit fidèle et prudent. Est-ce que Dieu veut que vous connaissiez tous les textes bibliques par cœur? Est-ce que Dieu veut que vous appreniez tous les versets par cœur que votre pasteur vous impose? Non, c'est pas important. Vous pouvez ne pas avoir de mémoire. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de mémoire? Ben oui. Comment? Vous la perdez. Est-ce qu'il est écrit, il vous sera fait selon votre mémoire? Non. Mais il y a des chrétiens qui se culpabilisent parce qu'ils ont lu un texte le matin et à midi, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont lu. Oh, mais c'est comme ça va pas. J'ai lu, je ne me rappelle même pas ce que j'ai lu ce matin. Mais c'est pas grave. Vous l'avez lu. Si vous mangez un bon steak le matin, que le soir, vous, qu'est-ce que j'ai mangé hier ce matin? C'est pas grave. C'est important que vous l'ayez mangé, parce que les globules rouges et les globules blancs, eux, ils vont s'en souvenir. Est-ce que vous comprenez? Vous l'avez mangé, vous vous rappelez ce que vous avez mangé le 16 août 2014? C'est pas grave, mais vous avez mangé. C'est pas une question de mémoire. Tant mieux si vous avez de la mémoire. Mais il ne vous sera pas fait selon votre mémoire. Il nous sera fait selon notre foi. Il nous sera fait selon notre fidélité. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Que j'essaie de faire. De vous donner la nourriture pour votre âme. C'est exactement adressé au pasteur. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui maître, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, est-ce qu'on peut battre les gens? Est-ce qu'on peut les battre? Le mot battre là, c'est frapper verbalement avec la langue. S'il se met à frapper avec la langue ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Le contexte, c'est l'hypocrisie. La conséquence, elle est pathétique. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que les pasteurs, ou tous ceux qui sont chargés d'enseigner, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, etc., les prophètes, tous ces hommes chargés de nourrir le peuple n'auront pas osé le faire. N'auront pas osé dire la vérité. Parce que si tu dis à quelqu'un, repens-toi, le gars, il ne revient pas. Et on baisse le niveau pour faire plaisir aux gens. C'est pour ça qu'on fait du social. Le social, ça plaît à tout le monde. Un nouveau vient pour la première fois et on lui dit tout ce qu'on a fait. Voilà, tiens, Madame Delabre me disait tout à l'heure, n'oubliez pas de remercier l'Église pour tous ceux qui ont amené des aliments pour l'aide alimentaire. Ah, ça c'est bien. Ah, dans l'Église, ils donnent à manger aux gens qui ont faim. Ça c'est bien, c'est une bonne Église. Mais c'est pas ça qui va vous sauver. Bien sûr qu'il faut continuer à le faire, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas du social, donner à manger, c'est pas ça. L'Église, c'est que les hommes et les femmes se préparent à rencontrer Dieu et que les chrétiens prient pour cela. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. Il y a plein d'hypocrites dans le royaume de Dieu. Il y a plein de pasteurs qui sont hypocrites. Ça fait pitié. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. Est-ce que vous priez pour les pasteurs? Il faut prier. Certains se sont fait piéger parce qu'il y a la pression. Il y a la pression des fois des conseils d'administration. Moi, il me met la pression, le conseil, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, monsieur Delabre. Dans le bon sens, de leur dire, oui, ils me disent, monsieur Beau, c'est pas grave, le résultat. Ce qui est important, c'est que les gens, ils entendent la vérité. Ça vous va, monsieur Delabre? C'est ça, ce que Dieu... Moi, je suis heureux. Dans l'église, quand on me dit, monsieur Gros, c'est pas les offrandes, qu'elles montent, qu'elles baissent, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les chrétiens entendent la vérité. Mais si on dit au pasteur, oui, il faut que les offrandes augmentent, on n'est pas dans une entreprise. On est dans le royaume de Dieu. Et on doit prêcher la croix. Et Dieu ne bénit que la croix. Ah, la croix. Amen. Mais les gens, ils méprisent la croix. Dans les églises, on ne peut plus prêcher la croix. Tiens donc la croix. Est-ce qu'il ne faut pas en parler un peu quand même? Le Dieu du ciel, qui a tout créé. Je ne sais pas si vous calculez un peu. Ça fait beaucoup de choses. Il a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce Dieu-là, il est venu sur la croix, en Jésus-Christ. La croix, ça vous fait quelque chose? La prédication de la croix, est-ce que ça vous touche toujours? Qu'est-ce que c'est qui vous touche le plus? La carrosserie de la voiture qu'on a rayée la semaine dernière? Ou la prédication de la croix? La prédication de la croix, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été versé pour mes péchés, pour mon iniquité. Hier, je chantais dans mon bureau, je chantais ce vieux cantique. Un bon cantique, j'avais pris. Un bon cantique. Jésus, par ton sang précieux, tu as lavé toutes mes iniquités. 276 sur les ailes de la foi. Mais regardez ça. Non, mais il faut le... Ça, c'est un rapport au sang. Est-ce que vous pouvez chanter? On le chantera tout à l'heure. C'est le 276. Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. C'est le... Vous l'avez trouvé? La troisième strophe. Eh bien, mettez-le. Céline, mettez-le de suite. Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Troisième strophe. Vous pouvez le chanter ça, ce matin? On chante des fois, mais je ne sais pas. Parce que même les pécheurs, des fois, ils chantent. Oh Jésus, ton sang précieux. La troisième. Descendez un peu. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Vous pouvez le chanter, ça? Et vous êtes heureux si vous pouvez chanter ça. Je disais l'autre jour qu'il y avait une dame à la télévision qui disait, « Oh, moi, quand j'entends « Je suis malade » de Serge Lama, ça me fait du bien. » Je dis, « Mais moi, je suis malade, moi, je préfère chanter que je suis guéri. » Mais frère, ça fait pitié. Mais si vous pouvez répondre, chanter, « Tu m'as... » Tout pardonné. C'est ça le chrétien. Il sait qu'il est pardonné. Il sait qu'il est lavé par le sang du Seigneur. Le sang du Seigneur, oui, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de prendre le pain et le vin dans quelques minutes. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Ou est-ce que c'est un acte rituel, un acte religieux? On prend le pain et le vin. Ah, Saint-Agne, c'est bien. On prend le pain et le vin tous les dimanches. Ça, c'est bien. Il y a des églises maintenant, et c'est vrai. On prend la Sainte-Seine une fois par mois. C'est pas bien, c'est sûr. Parce que le gars qui travaille ce dimanche-là ou qui ne peut pas venir, ça veut dire qu'il n'a pas pris la Sainte-Seine de 2 mois. Je ne pense pas que c'est bien. Le critère biblique, c'est faites ceci à mémoire de moi toutes les fois. Toutes les fois que vous vous rassemblerez. Mais c'est quoi prendre le pain et le vin? Est-ce que c'est une bénédiction? Vous avez vu les chrétiens ce qui est dit des chrétiens qui profanent le sang? Comment échapperons-nous, dit l'apôtre, en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? Et quand Paul dit, il le dit en pleurant, il le dit en pleurant des chrétiens qui crucifient encore Jésus-Christ à cause du péché, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que parce que Jésus pardonne et que parce que Jésus lave, ils peuvent vivre dans le péché. Ils appellent ça la grâce. La grâce, elle ne nous enseigne pas à couvrir le péché. La grâce, elle nous enseigne à vivre dans la piété. C'est écrit ou c'est pas écrit? La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la piété. C'est écrit dans le livre de Tite. Et je crois qu'il faut dire certaines choses. Regardez dans Hébreux, chapitre 10, lorsqu'il est parlé des chrétiens qui profanent le sang de l'Alliance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, voilà, tout est bien, tout va bien. Est-ce que je profane le sang de l'Alliance? Si vous vivez dans le péché, volontairement. Ben, je l'ai vu, ça. Mais moi, je vous assure, ça me brise le cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a énormément de gens qui vivent dans le péché. Mais mes frères et sœurs, c'est grave. Hein? Moi, je n'ai pas envie que Dieu me dise, tu as été un hypocrite, tu n'auras pas dit la vérité. Si vous vivez dans le péché, volontairement, vous profanez le sang. Et ça va mal finir pour vous. Hébreux chapitre 10, verset 26. Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Mais lisons-le, n'oubliez pas que ça a été écrit pour notre instruction, parce que Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Et ce texte s'adresse aux chrétiens qui négligent le salut. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, vous faites la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Est-ce que vous faites la différence? Oui, parce que il faut comprendre ces choses. Moi, des fois, ma femme me dit, t'es trop compliqué quand tu prêches. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas.
Non.
Bon. Le péché volontaire et le péché involontaire. Je méprise quelqu'un. C'est un péché. Mais si c'est involontaire. Je manque d'amour pour quelqu'un. C'est un péché. J'ai menti, je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai menti 5 ou 6 fois à ma femme, madame, depuis qu'on est mariés. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Non. Je lui ai demandé pardon. Ça ne fait pas de moi un menteur professionnel. C'était pas grave en plus. Mais je lui ai, 5 ou 6 fois, je lui ai dit, écoute, je te demande pardon parce que je t'ai menti. C'était involontaire, c'était bête. Mais il y a le péché volontaire, c'est-à-dire que je vis dans le péché. Je mens parce que ça m'arrange. Et la parole de Dieu, elle est claire. Si nous péchons volontairement, ça s'adresse aux chrétiens, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le sang de Dieu, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Hein? C'est ce qu'il dit. Il le dit. Où c'est qu'il le dit un peu plus haut? Quand il dit. C'est juste avant qu'il dit. Voilà, chapitre 12, c'est après juste, verset 25. Ce sont des versets qui font réfléchir. Regardez bien, Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ce genre de prédication. Bon, ben ça, ce n'est pas mon problème. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est Dieu qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle, Dieu des cieux? C'est pour ça, mes frères et sœurs, que ces choses-là, il faut les prendre au sérieux. Et quand quelqu'un qui est prêt, il ne profane pas le sang de l'Alliance. Il a un respect profond pour le sang précieux de Jésus. Oui ou non? Est-ce que vous avez un respect profond pour le sang de Jésus? Ce matin, quand je priais, ne vous moquez pas de moi, hein? Je pensais au salaire qu'a touché le boxeur qui a gagné le championnat du monde de boxe cette année. Vous savez combien il a gagné? Pour un match de boxe, il a gagné 160 millions d'euros. Ça fait 6 200 euros par seconde. Ça fait des sous. Et moi, j'étais à genoux ce matin dans mon bureau et je disais, Seigneur, tu vois, je suis plus riche que lui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais c'est vrai. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? De gagner le monde. Quel est l'homme qui a gagné le monde? Est-ce qu'il y en a un qui aime? Non. Même Alexandre le Grand, qui a fait pas mal de conquêtes, il n'a pas gagné le monde. Il est mort en plus. Comment il est mort? Oui, très jeune, oui. 33 ans, je crois, 31. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien, le monde. S'il perdait son âme. C'est pour cela que, quand je chante, Jésus, par ton sang précieux, tu as lavé mon iniquité. Mais je veux entretenir cette foi. Je veux entretenir ce service joyeux. Et vous lirez les autres textes. C'est dans Matthieu, c'est dans l'évangile de Matthieu. Il y a 6 textes dans l'évangile de Matthieu. Et il y en a un dans Luc, je crois que c'est au chapitre 13. Et le dernier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, il dit, efforcez-vous d'entrer, parce que la porte, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, beaucoup, tiens, c'est qui c'est beaucoup? Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Pourtant, Jésus connaît tout le monde. Est-ce que Jésus connaît tout le monde? Est-ce que si vous croisez dans la rue tout à l'heure, il pourrait, tiens, oui, tu t'appelles Jonathan D'Agostino. Est-ce que Dieu pourrait dire à tout le monde son prénom, son nom et tout. Oui. Et il dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire, je ne vous approuve pas. Je n'ai pas de communion avec vous. Je n'ai jamais eu de relation avec vous. Mais on allait, mais attends. Oui, parce que c'est argumenté en plus. Et c'est Jésus qui parle. Mais nous avons mangé avec toi. J'ai pris la Sainte-Seine tous les dimanches à Sainte-Agne. Mais tu nous as enseigné dans nos rues. C'est Jésus qui parle. Mes frères et sœurs, la sainteté, la communion avec Dieu, c'est sérieux. Et quand Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est sérieux. Il faut que je me prépare, moi le premier. Il faut que je me prépare à vivre dans la sainteté. Un des textes où il est parlé des pleurs et des grincements de dents, c'est la parabole du festin des noces. On en parle souvent dans l'évangélisation et on parle de tous ceux qui ont refusé l'invitation. Vous savez, on parle toujours de ceux qui ont refusé parce que l'un il avait du trafic, l'autre il venait de se marier. Excusez-nous, on n'a pas pu, etc. Mais la parabole des festins des noces, ce n'est pas que ça. Il nous est parlé d'un gars qui a accepté l'invitation et qui se retrouve au festin. Il se retrouve au festin des noces, il a accepté l'invitation. Il est entré. Et puis on va lui dire, mais comment ça se fait que tu n'as pas mis l'habit de noces? Parce qu'il y a des gens, l'habit de noces, ça représente Christ, ça représente le sang du Seigneur, et il y a des gens pour qui leur religion, c'est un habit beaucoup plus cossu, beaucoup plus super que le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez bien que pour certains, parce que j'étais catholique, moi j'ai mon église avec mes cathédrales et tout ce que vous voulez, aller dans une église évangélique, non, moi je veux un habit beaucoup plus soft. L'habit soft, c'est le sang de Jésus. Et vous connaissez cette... On la lit ? Allons terminer avec ça. Il faut le lire, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment les chrétiens lisent la Bible aujourd'hui, mais quand je les entends parler, je pense qu'il y a un problème. C'est dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, mais lisez cette parabole. Si vous voulez, je vous les donne, vous les méditerez. Matthieu 22, 11. Vous savez, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit, je suis le chemin... La vérité. Je suis la vérité, sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Matthieu 22. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Donc c'est quelqu'un qui avait... Il était rentré. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors est-ce que ça veut dire que dans le ciel, il y aura des gens qui vont monter et que Jésus va dire, ah, pardon, tu es perdu, va-t'en. Non, c'est pas ça, il n'y a pas d'erreur, vous inquiétez. Mais c'est une parabole, ça indique ce qui se passe. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc, je répète, c'est quelqu'un qui était rentré dans l'église. Il était rentré, je ne sais pas par quelle porte, mais pas la bonne. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il ne dit pas beaucoup de chrétiens, peu de chrétiens, peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui ont répondu à l'appel, d'ailleurs c'est preuve, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je réponds à l'appel, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer? C'est quoi la robe blanche? C'est la repentance, c'est la sainteté. Eh bien je veux me repentir. Je ne sais pas, je sais que beaucoup de gens m'écouteront par le biais de cet enseignement, par le biais d'Internet. Mais vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes entré dans l'Église par la porte de la communion fraternelle, la porte du social, la porte, je ne sais pas moi, de tout, sauf par Jésus-Christ? Comment êtes-vous rentré dans le royaume de Dieu? Comment êtes-vous devenu chrétien? Ah, moi je suis évangélique. Vous savez, c'est la meilleure religion. Il n'y a pas de bonne, il y a aucune bonne religion d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose qui est importante. C'est que je suis rentré parce que j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Est-ce que vous allez pouvoir prendre le pain avec joie et dire, Seigneur, oui, ton sang m'a lavé. Le sang précieux de Jésus. Oui, il est précieux. Il a du prix. Comment êtes-vous rentré, mes frères et sœurs? Comment êtes-vous rentré dans le royaume de Dieu? On ferme les yeux quelques instants. Jonathan, tu peux prendre des frères. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui parle. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On va le rencontrer tous, tous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, enfin moi ça m'est égal. Mais vous allez, nous allons tous le rencontrer. Et Dieu veut que ça se passe bien. Alors prépare-toi. Je le répète, ce n'est pas parce qu'on va à Bethel, à Gilgal, à telle église qu'on est prêt. On peut aller dans un lieu de culte et pécher encore plus. Mes frères et sœurs, oui, le sang de Jésus, il est précieux. Si vous avez le sang de Jésus sur votre corps, sur votre âme, vous êtes comme les Hébreux lorsque l'ange de la mort allait passer sur Gozen. L'ange de la mort n'a pas pu rentrer dans les maisons où ils avaient appliqué le sang. Est-ce que sur le cœur, sur votre cœur, sur les linteaux de votre cœur, sur les poteaux de votre âme, est-ce que vous pouvez dire oui par la foi, je crois que le sang de Jésus m'a lavé. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a purifié. Et je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas rentrés ou qui sont mal rentrés. Tous ceux qui flirtent avec le péché. Je vous le dis. Si vous vous amusez avec le péché, quand Jésus va revenir, vous ne serez pas enlevés. Vous pourrez encore avoir une chance parce que pendant la grande tribulation, mais je peux vous dire que ça va être grave. Et ça va chauffer, croyez-moi. Ça sera au péril de votre vie que vous pourrez devenir chrétien. Alors autant vous éviter des épreuves graves. On va prendre le pain levé, mes frères et sœurs. C'est une grâce. Oui, les gens les plus riches sur la terre. Et je suis sérieux, c'est pas une image. Les gens les plus riches, ce sont ceux à qui le ciel est ouvert. À qui Jésus dira... Entre, bon et fidèle serviteur. Entre, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Jésus n'a pas arrêté de dire depuis 2000 ans, venez à moi. Dans toutes les églises où on a respecté la parole, tous les hommes ont dû entendre, venez à moi. Voilà le message. Et pourtant, ce même Jésus devra dire à des millions de gens, retirez-vous de moi. Quelle peine. Donc le seul moyen, c'est de vivre cet autre verset, demeurez en moi. Alors je vais vous demander de vous lever, mais vous qui êtes chrétien, vous qui êtes attaché à Jésus, venez encore plus près de lui. Si ça ne va pas, revenez à lui. Mais revenez de tout votre cœur. Si vous revenez, il reviendra. C'est une loi. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Mes frères et sœurs, que ce moment soit un moment de victoire. Alléluia. Mes frères et sœurs, levez-vous si vous êtes baptisés, repentis. Levez-vous si vous n'êtes pas encore sauvés, convertis à votre place. Repentez-vous. C'est comme ça que vous entrerez dans le royaume. Repentez-vous sincèrement. C'est sérieux, et si vous avez des doutes, mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Que les évangiles, que les paroles de Jésus, ça suffit. Je peux vous dire que ça suffit. Matthieu, Marc, Luc et Jean, lisez que ça, ça suffira. Et si vous vous êtes levé dans votre cœur, oui, dites Seigneur, merci, merci, merci. Vous êtes plus riche que celui qui aurait gagné le monde, parce que le monde, il va passer. Notre Père, notre Dieu, tu as donné ta vie au calvaire pour que nous obtenions la justification, ta justice qui nous a été imputée à la croix. Et tu as pris le temps de nous laisser ta parole. Tout ce que nous avions besoin d'entendre, tu l'as consigné dans le Saint-Livre. Oui, tu l'as dit, Seigneur. Je vous ai tout annoncé à l'avance. Merci, Seigneur. Fais en sorte que ce message puisse amener des rétrogrades à revenir à toi. fais que ce message amène des croyants à s'approcher davantage de toi. Fais que ce message amène des pécheurs à se jeter à tes pieds et à honorer ton sang précieux. Nous le croyons, oui, que ton sang est précieux. Et nous languissons ce jour où nous verrons tes mains, Seigneur, avec ces cicatrices qui nous rappelleront l'éternité entière. Quelle grâce, ce que tu accomplis pour nous lors de notre passage sur la terre. Merci d'avoir institué la Sainte-Seine, Seigneur. Que ce moment soit vraiment un moment de victoire pour l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen.